Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Toujours un plaisir de vous retrouver. Et cette semaine, on va plonger autour d'un livre, d'un ouvrage qui plonge lui-même sur une série, sur une multitude d'ouvrages. Donc, on est un peu dans une BDception aujourd'hui. Et évidemment, on tenait à vous en parler rapidement. Pourquoi? Parce que c'est un ouvrage magistral, parce que c'est un ouvrage important, c'est parce que c'est un ouvrage riche. Et je pense que vous l'avez déjà vu passer au fil des médias, au fil des entrevues, au fil des rencontres. Ça fait déjà quelques semaines qu'il est sur les étaux des libraires. Et on tenait justement à lui consacrer un bon moment ici à La Vie en BD. Alors, c'est un plaisir de plonger sur le livre, donc, du côté de la pastèque qui s'appelle « Paul, entretien et commentaires », un livre de Michel Giguère et de Michel Rabagliati. Les deux auteurs sont avec nous. Bonjour, Michel et Michel.
Salut, bonjour, Raymond, bonjour. Salut, Michel.
Alors, évidemment, un livre qui, je pense qu'on va commencer par la genèse de cet ouvrage-là comme tel. Vous étiez déjà croisé dans le cadre des rendez-vous de la bande dessinée, Michel Giguère. C'est pour ça, généralement, qu'on te voit apparaître, d'ailleurs, à La Vie en BD. C'est ton premier passage comme auteur. Et donc, tu avais déjà exploré un peu le travail de Michel Rabagliati. Qu'est-ce qui a mené à l'envie, au désir de faire une exploration beaucoup plus en profondeur de cette série-là, de cet univers-là, et de son approche BD, parce qu'on va vraiment du thématique au structurel, on explore vraiment de façon 360 tout ça. Donc, d'où était venue peut-être un peu l'amorce de départ de ce projet-là?
Oui, bien écoute, d'abord, ça n'a pas été une grosse partie du travail que de me plonger dans les albums. Je n'ai pas eu à tout relire puis à tout analyser. C'est une série qui était fraîche en mémoire pour la simple et bonne raison que c'est un de mes outils de travail dans mon travail de médiateur. J'ai connu Michel, la toute première fois qu'il a, lui, entendu parler de moi, c'était pour la sortie de Paul à la pêche pour un article pour le journal Les Libraires. Après quoi, comme tu dis, à l'automne 2009, je l'ai invité au rendez-vous de la BD à la sortie de Paul à Québec. Après ça, j'ai animé avec lui deux autres entretiens devant public avec projection de planches sur grand écran sur le modèle des rendez-vous de la BD. Michel et moi, on se connaissait pour ça, on se connaissait professionnellement et je l'ai contacté donc au printemps 2020 pour lui offrir de faire un prolongement papier imprimé de ce qu'on avait fait si bien à trois reprises verbalement devant public, à savoir de plonger dans son œuvre, mais aussi dans son art, c'est-à-dire dans sa façon de raconter, sa façon de mettre en scène et tout ce que je me plais à analyser là, dans l'ouvrage.
Donc, c'est une belle invitation qui t'a été lancée au bout du compte, Michel Rabagliati. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de l'accepter, de répondre favorablement, dans le fond, à ce contact-là?
Ben, c'est très flatteur que quelqu'un t'appelle pour te dire qu'il aime ton stock puis qu'il veut il aimerait faire quelque chose sur papier avec ça. Ça, c'est d'abord ça, c'est très flatteur, puis c'est intéressant comme travail à faire aussi. Ça a été amusant à faire parce que bon, vous êtes, comme le livre est découpé en une longue entrevue, moi, mon travail, c'était de répondre aux questions de Michel puis de fournir le stock aussi. Michel avait droit, il pouvait prendre les tiroirs, étaient tout ouverts, il pouvait prendre qu'est-ce qu'il voulait là-dedans. Ça, c'est cool pour un auteur, j'imagine, de genre, je veux ça. Moi, tout était disponible de toute façon en fichier numérique, là, j'avais ça. On a décidé aussi d'étirer un peu le projet, rajouter les illustrations magazine. Moi, j'avais envie aussi de montrer au lecteur, oui, il y a la BD Paul, mais ça vient de quelque part, ça vient d'une carrière en graphisme, ça vient d'influence X, ça vient d'illustration, parce qu'avant Paul, avant 99, j'ai commencé, j'avais presque la quarantaine, j'avais pas mal de dessins derrière moi, puis d'autres choses derrière moi. Ça, c'est Paul découle de ça. Donc, le style graphique de Paul a été influencé par tout ce que j'ai fait avant en graphisme, en illustration. Puis on a pu couvrir ça, je suis content qu'on ait pu montrer ça dans le livre, puis ça a été un plaisir. Avec Michel, évidemment, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour me bitcher. Là. C'est tout du positif. Ce livre-là est complètement positif et ensoleillé là, à propos de l'œuvre. Puis les analyses de Michel sont. Moi, j'en entends beaucoup parler. Les analyses qui sont sur les pages jaunes du livre sont très appréciées du public. Il y a du monde qui aime ça, les gens ont apprécié que quelqu'un décortique ça pour eux, leur parle de ça, puis leur disent « voici ce qui se passe dans ces cases-là, voici pourquoi vous ressentez ça, voici comment c'est fabriqué ». Ça, c'est, j'ai beaucoup de bons commentaires là-dessus, Michel, d'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, mais c'est comme je reçois beaucoup de bons commentaires. Les gens, ça les intéresse, ça les intéresse vivement, la fabrication de la bande dessinée.
Mais c'est un petit peu le pari qu'on faisait, c'est-à-dire que dans cette période où la bande dessinée québécoise se porte tellement bien, il n'y a pas qu'au niveau de la création qu'on vit un âge d'or. Moi, je prenais le pari que le lectorat aussi faisait l'objet d'un développement vraiment enthousiasmant et que donc les lecteurs, les lectrices de bande dessinée au Québec étaient prêts à aller plus loin, c'est-à-dire non seulement apprécier une œuvre, embarquer dans une histoire, un album, mais se questionner puis explorer un petit peu le langage de la BD. Bref, lever le capot de la voiture, se pencher sur le moteur puis voir « Hey, comment ça marche? Ça marche, ça roule l'enfer, mais comment ça marche? » Et là, il faut saluer la pastèque parce que moi et Michel, on va se congratuler tout le long de l'entretien, là, mais la pastèque, leur ouverture, leur audace, je pense que de leur côté, il y avait l'envie de s'offrir et d'offrir au public un beau cadeau. On le sait, la série Paul et la figure même de Michel Rabagliati est très appréciée du public, très aimée. Je m'en rends compte dans les séances de dédicaces. Là. Et donc, pour la pastèque, c'était une occasion en or de peut-être même de souligner leur 20e anniversaire, tu sais, et avec un petit peu de retard, mais de s'offrir cette espèce de gros album qui n'était pas mon idée, moi, au départ, mais là, c'est devenu un monstre, un espèce de gros rectangle jaune. Et comme Michel disait tantôt, il s'est ajouté à ça des bandes dessinées inédites ou très peu diffusées, un tas d'illustrations, des étapes préliminaires, des photos de différentes périodes. Fait que pour les amateurs de la série Paul, là, c'est une boîte à surprises pas mal réjouissante.
Oui, c'est un assez beau... C'est un livre, en fait, au départ, moi, je disais, OK, ça va avoir 100 pages. OK, ça va avoir 150 pages. Après ça, on en rajoutait. Puis là, je me disais, hey, ça va peser. Attention, un livre de 200 pages chez l'eau. Là, on continue d'en rajouter. Youhou, ça va avoir 250 pages. Je disais à Martin, attention, ça va coûter quand même bonbon. Ça va devenir très lourd. Non, pas de problème, on met ça. On veut ça. Vas-y, mettez-en. Puis j'ai compris que bon, ils voulaient faire un événement avec ça. Puis pas juste un petit livre qui passe inaperçu. Une patente, vraiment un livre cadeau, là, un coffee table book là, avec exhaustif, avec tout ce qu'on a à mettre dedans. Là, mettez-les, les gars. Donc, on avait le feu vert, franchement. Il a fallu arriver. Je pense que 300 pages, pas mal le maximum comparé pour un hardcover. Ça commence à... Ça fait mal au ventre quand tu le lis. Quasiment quand tu te le mets sur la bédaine. Il faut arrêter. Là.
Oui, en fait, vous avez l'opportunité de suivre un peu l'ampleur, d'aller un peu d'un côté instinctivement, de dire bon, OK, ça serait intéressant d'explorer ça, dans un contexte oui. Où déjà, on comprend aussi bien que pour Michel Giguère, dans ce cas-ci, il y avait eu un bon travail de décortiquage, d'analyse, dans le fond. Donc, tu arrivais aux entrevues, à l'étape des rencontres, des discussions avec Michel Rabagliati, avec déjà quand même un bagage d'analyse qu'on vient enrichir après ça en dialogue avec l'auteur, qui vient enrichir le travail d'analyse, qui vient enrichir le dialogue. Puis, dans le fond, vous êtes créé un cercle vertueux qui a permis aussi d'aller chercher du contenu pour 350 pages et qu'on sente au terme de ça, qu'il y en aurait eu encore pour une centaine de pages et que ça serait resté pertinent également.
Oui, sans doute. Oui. Vas-y, Michel.
Oui. Non, je... Un moment donné, j'ai failli commencer à aller du côté du graphisme. Il y a aussi un moment donné, j'étais sculpteur, je faisais des trucs en carton. Je ne suis pas allé montrer tout ça, mais on aurait pu encore aller plus loin, fouiller ailleurs, en tout cas dans mes antécédents. Mais bon, il fallait arrêter. T'sais, moi, je trouve que on a fait un beau travail. Michel est allé vraiment balayer dans les coins pour tout ce qui peut intéresser le lecteur, puis l'interpeller, tu sais, des trucs au niveau du langage, de la composition. Moi, j'aime bien ça. J'y aurais jamais pensé moi-même. J'aurais jamais pris le temps de moi-même checker mes pages, voir ce qui se passe. Ça prenait vraiment quelqu'un de l'extérieur avec... un expert de l'extérieur pour nous dire, bon, voici ce qui se passe ici, voici ce que je vois là, puis voici pourquoi cette émotion-là est produite. Là, c'est bien intéressant, tout ça. Là. Puis ça, évidemment, tu fais pas ça toi-même. Il faut que ça vienne de quelqu'un d'autre.
Et pour Michel Giguère, dans le fond, on choisit, justement, parce que je pense qu'on l'a bien dit, dans le fond, il y a un volet très pédagogique aussi là-dedans, dans la mesure où on se sert de cette magnifique porte d'entrée qui est la série Paul, pour expliquer aussi justement les mécanismes de la BD. Donc, on parle de la série, mais on parle de la bande dessinée plus largement. Qu'est-ce qui faisait que justement dans Paul, on avait là toute la matière première suffisante pour réussir à expliquer une multitude de procédés? Parce qu'on voit que, je veux dire, Michel Rabagliati, sa boîte à outils, il la connaît, il la maîtrise, et il l'a largement exploité au fil de l'ensemble des tomes de cette série-là.
Mais tu sais, cette partie-là, qu'on peut appeler analyse de planche, il ne faut pas que les gens aient peur du mot analyse. Moi, c'est presque une récréation. Fait que c'est une partie, ça, qui a été assez rapide et avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et évidemment, c'était plaisant parce que c'est ma zone de confort. Je fais ça depuis 30 ans en tant que médiateur, conférencier, animateur d'atelier, prof, etc. Et j'ai l'habitude de le faire avec des bandes dessinées de partout à travers le monde. Tu sais, je pige, je m'attale, là, tu sais, c'est très large. Et là, pour un livre, c'était beaucoup plus simple de travailler avec un seul BDiste. Mais c'est pas évident. C'est tout un défi de travailler avec un corpus seulement et d'y trouver tous les éléments de ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle la boîte à outils. Bon, la boîte à outils, tu sais, ça fait un langage presque puéril, un peu enfantin, mais ça envoie un signal, en tout cas, ça envoie un message qui est « ce n'est pas un ouvrage de niveau universitaire, c'est grand public ». Et ça commence avec la base, et puis curieusement, sans trop vous en rendre compte, monsieur, madame, ben, au bout d'un certain nombre de pages, vous allez vous rendre compte qu'on est rendu pas mal loin, mais on y a été progressivement, puis vous ne perdez pas en chemin si vous êtes capable de suivre. C'est un peu ça le défi. Mais il y a, comme je le disais, la série Paul, ça faisait partie de mon matériau, tu sais, comme d'autres. Il y a certains BDistes de prédilection qui se prêtent particulièrement bien à une utilisation pédagogique. Michel Rabagliati en est. Donc, il y a certains procédés narratifs et graphiques que j'avais en mémoire des pages, des planches de tel ou tel album de la série Paul, en sachant que ça ferait des exemples parfaits. Mais il y a d'autres procédés dont je voulais parler que là, en tête, par cœur, il ne me venait rien. Donc, oui. Il y a eu un travail de feuilletage, de passer au crible l'ensemble des 9 albums de la série pour y trouver l'illustration idéale de tel ou tel procédé. Et ça, c'était une grande, grande satisfaction quand je l'ai trouvé. Tu sais, quand tu cherches quelque chose, c'est le fun de trouver.
Oui, mais surtout, en fait, quand tu cherches une scène d'action, c'est pas nécessairement la série, mais tu as même réussi à trouver ça pour dire qu'il y a quand même de ouais. Tout dans toutes les approches de mise en scène, dans le fond, qu'on peut extirper de tout seul.
Oui, ouais, puis le style de Michel, son style visuel en tant qu'ancien graphiste, quand il s'est mis à la BD, il a conservé un style quand même assez graphique, donc avec un souci de clarté visuelle, de netteté de l'image. Fait que pédagogiquement, ça aussi, ça ajoute à la pertinence d'utiliser l'œuvre de Rabagliati.
Oui, oui, oui. Je comprends. Mais bon, évidemment, tu n'as pas tout, parce qu'il pourrait avoir... bon, c'est sûr que si tu irais voir dans des bandes dessinées de science-fiction, il y a des choses là-dedans que tu aurais pu parler de, tu sais, mais qui sont... Par exemple, il n'y a pas de science-fiction dans mes affaires. Il n'y a pas beaucoup de voyages. Mais tu sais ça, mais quand même, je constate que je fais de la BD assez classique, puis Michel, il y en a eu quand même pas mal sur la table. Il y avait quand même un buffet là, assez élaboré pour se servir puis parler d'eux. C'est sûr. C'est pas une œuvre qui est comme qui est monolithique, qui fait qu'on n'est pas toujours sur un fond noir pendant 8 albums. Là, c'est comme, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'explore plusieurs trucs, dans le fond, que j'ai moi-même volé aux auteurs belges. Tu sais, je veux dire, j'utilise des trucs de Dergé puis de Franquin abondamment. Pour moi, ces gars-là ont déjà fait la job. Fait que je me sers dans leur système narratif constamment.
Oui, puis en fait, mais c'est déjà en plus, puis c'est ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis, c'est déjà placé c'est dans ça. Tes albums. Dans le fond, comme tes albums s'intéressent à un avatar de ton expérience à toi, mais dans le fond, on retrouve justement Franquin, il reste l'apprentissage de la bande dessinée, l'apprentissage du médium, le petit livre qui a été ton livre de chevet pendant un certain temps, c'est déjà placé là aussi. Donc, dans le fond, de l'aborder à travers ça, ben, reste aussi dans l'esprit de Paul, au bout du compte.
C'est vrai. En fait, oui, il y a une sorte de mise en abîme là-dedans. Là, je veux dire, on me voit dans l'apprentissage du médium moi-même, on me voit lire des journaux Spirou, Tintin, etc., d'où je m'inspire d'auteurs qui vont finalement m'aider à travailler plus tard. Là. C'est pas mal ça.
Oui, autant que dans d'autres, on nous amène, tu nous as amené sur l'apprentissage, l'observation de l'art, de l'œuvre d'art, ou même du lettrage, des polices de caractère avec le métier de
tonnerre,
etc. Donc c'est
ça. Mes BD me servent beaucoup à ça, pour m'exprimer. Puis si j'ai des choses à passer, j'ai des messages à passer ou des intérêts donc, que je voudrais partager avec le lecteur, que je pense que ça pourrait l'intéresser. Je m'en sers. Ça, je trouve ça le fun. La série est comme intéressante pour ça. On n'est pas obligé de toujours être à cheval tout le long, au grand galop. T'sais, il peut arrêter, maner, attacher le cheval à un arbre. Bon, puis là, aller voir ce qui se passe dans la rivière, parler d'autres choses, regarder les nuages. C'est un personnage qui est libre. C'est pour ça que je m'en dis. Les gens me disent tout le temps, T'es-tu tanné de Paul? Ben, pourquoi? T'sais, c'est un personnage, c'est tellement neutre. C'est un monsieur tout le monde. Il est un gars bien ordinaire. Donc, justement, il est cool. Il est comme en plastine. Je fais ce que je veux avec. Bon, il a mon caractère. Il a un certain caractère. Mais il n'y a pas de trait si puissant que ça qui lui donne un air d'aller vraiment particulier. C'est un héros de la vie ordinaire. Puis bon, moi, je peux faire encore bien du chemin avec ce gars-là. T'sais. Je pourrais même lui mettre des couettes, lui mettre une robe, puis bon, ça devient Paulette, puis on continue avec une fille. Ce serait sensiblement le même personnage. Un observateur de notre ère, de notre temps. C'est ça, Paul. C'est un gars qui sort dehors, il a les mains dans les poches, puis il regarde ce qui se passe. Puis c'est pas trop contraignant comme personnage.
Mais en même temps, tout ce que Michel dit, évidemment, c'est juste, puisque c'est son œuvre, mais il s'agit quand même d'autofiction. Fait que l'autofiction, je trouve que c'est un genre assez particulier où, évidemment, la réalité, la vérité se mêle à une part d'invention, puis le lecteur ne sait jamais la limite où commence la fiction, où arrête la réalité. Et ça me frappe, on a fait quand même des séances de dédicaces ensemble dans les derniers mois, et il y a un amour de la série, mais les gens se présentent devant Rabagliati chargés de leur lecture, tu sais, avec l'impression de le connaître. Alors que Michel, quand il est devant le lecteur, il les salue aimablement, mais il ne les connaît pas bien. Mais les gens, eux, ils ont une familiarité, des confidences. Il y a une lueur dans l'œil là, qui fait qu'ils sont contents enfin d'avoir en chair et en os devant eux l'alter ego de Paul. Et ça, c'est une dimension. Je n'ai jamais demandé à Michel comment il le vit. C'est très personnel, mais là, je l'ai vraiment expérimenté là, de façon
live. C'est certain que mes lecteurs ont comme une longueur d'avance. Ils arrivent sur. Moi, je connais rien d'eux, puis eux autres, c'est comme s'ils avaient lu tous mes albums. Il n'y a rien qu'une brassée d'albums de photos, tu sais, je leur ai tout quasiment donné ma vie. Ils sont capables de replacer, à 10 ans, il restait à Rosemont, à 16 ans, il était à Saint-Léonard, il est allé à telle polyvalente, il est allé à Joseph-François Perrault, il a été animateur de camp de vacances. Ça, c'est bien les informations, c'est tout. Son père, c'est un Français, son grand-père, c'est un Italien, ses grands-parents, c'est des Français, il restait un à côté de l'autre. Ils ont toutes ces informations-là. Puis souvent, ben, c'est l'effet miroir. C'est comme, ils se retrouvent là-dedans, surtout comme Montréalais. Donc là, ils arrivent, ils ont des fois presque les larmes aux yeux parce que là, ils sont contents de finalement venir me partager ça. Je dis tout le temps qu'ils viennent rarement me parler de mon travail, ils viennent me parler d'eux autres. Ils viennent me parler d'eux, de leur expérience à eux, de comment eux, mon œuvre a fait miroir à leur réalité. C'est ça que j'entends plus. Et je pense que je n'ai jamais entendu depuis 10 ans, vos dessins sont beaux, vos histoires sont bonnes, peut-être, là, mais avant tout, c'est comme j'ai été touché, ça m'a rejoint, c'est vers eux que ça s'en va tout de suite, ils veulent me parler d'eux, leur expérience. Mais ça, c'est très bon signe, ça veut dire que j'ai pesé sur des bons boutons quelque part, puis ça a connecté, là.
Oui, puis enfin, on a déjà parlé aussi des fois, puis Michel Giguère là-dessus, je me rappelle, des fois, une bonne mécanique va se faire oublier. On réussit à susciter une émotion, mais il ne faut pas que consciemment, je puisse comprendre quand je regarde la planche, OK, là, on m'introduit tel personnage,
ouais.
On place telle séquence, donc l'auteur veut me faire... On plonge dans l'album, puis on vit l'album, puis c'est révéler un peu le code derrière que d'amener un peu vers l'histoire autour d'eux, les réflexions autour d'eux, de pourquoi on a choisi telle mise en scène, pourquoi on a mis à tel endroit, pourquoi on a choisi tel cadre, mais on le vit instinctivement, dans le fond.
Oui. Puis des fois, je cherche à contourner ça. Il y a beaucoup d'introductions classiques que j'essaie d'éviter ou des mises en page classiques. Je dis, ah tiens, je vais essayer de contourner ça ici, ou non, être plus court sur ça ici, parce que ça a déjà été vu. Tu sais, on cherche ça aussi. Je regarde ce qui se fait, je regarde ce qui se fait au cinéma, en BD. J'essaie de voir si je pourrais pas être un petit peu faire quelque chose d'un peu différent, tu sais, puis pas toujours répéter la même recette. Il y a des bonnes recettes, là, c'est sûr. J'en utilise des recettes, là. Mais c'est intéressant de trouver qu'est-ce qu'on peut chercher qui va créer une surprise. C'est souvent des tours d'une page. Moi, je suis un peu John Irving dans mon écriture, c'est-à-dire que je suis dans le drame, puis après ça, on tourne la page, puis il y a une joke, là, tu sais, où on s'en va ailleurs, au contraire, c'est très drôle, on tourne la page, puis là, il y a quelque chose de bien grave qui arrive. C'est un peu mon système. J'aime ça comme changer de ton. Là, on est en couleur, ben là, on est en noir et blanc. C'est quoi ça? On est en noir et blanc. Après ça, on est en duo. Après ça, on change. Là, on est ailleurs. On est à Hollywood. Là, on finit. On est à Paris maintenant. Là, j'aime bien les contrastes aussi dans les planches, dans les pages, dans le mood de lecture. Changer de mood. C'est pour ça, souvent, même dans Paul à la maison, il y a des gags qui sont assez burlesques. Là, il y a quelques trucs, Paul chez le dentiste ou avec son appareil d'apnée du sommeil. Là, c'est de la couillonnade. On niaise. Je donne ça au lecteur. Je donne une respiration, gage. Voilà une bonne joke. Là, ça va te relaxer. Puis après ça, on retournera au noyau central de l'histoire après.
Oui, puis ça permet de trancher justement cet effet-là. Je trouve d'avoir un impact, d'avoir un effet. Puis des fois même de magnifier aussi des moments où tu vas plus loin dans le silence ou dans le... Je ne dirais pas le pathos parce qu'on ne va pas du tout dans le pathos, mais dans l'émotion, ça serait mieux dit. Je pense, par exemple, c'est au long silence dans Paul à la page, je pense avec la fausse couche, le silence sur plusieurs cases, mais ça marche parce que comme on va ailleurs dans d'autres séquences, on peut aller jusqu'au bout aussi dans des séquences plus dramatiques.
Oui, c'est vrai. Quand il s'agit de drame, je vais jusqu'au bout, par exemple. Je vais jusqu'au bout du concept, jusqu'au bout de l'idée. J'essaie d'extraire le maximum d'émotion d'un silence ou d'une situation. Avoir une fausse couche, c'est vraiment pas drôle. Puis ça se traite pas en une case. T'sais. Pour moi, non. Je ne serais pas genre... Lucie a fait une fausse couche, puis le lendemain, on est à la plage. C'est le moment d'en parler. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passe? En plus, comme on est en autofiction, j'ai été sur plage, j'étais avec ma blonde, j'y tenais la main, ben là, on en parle. Voyons comment ça s'est passé. Une fausse couche, habituellement, c'est suivi d'un curetage. Ben, un curetage... C'est comme un genre d'avortement forcé, là, tu sais, puis je l'ai montré, là, tu sais, puis c'est difficile, puis il y a beaucoup de gens qui m'ont remercié pour ça, parce que souvent, on minimise, « Oh, la fille a fait une fausse couche. » Moi, elle l'a perdue, bien, qu'est-ce que tu veux, elle l'a perdue, mais c'est plus grave que ça. Tu étais enceinte, tu l'attendais, tu avais acheté des petits pyjamas, tu étais prête, là, tes beaux-parents étaient tous énervés, puis là, deux ou trois mois plus tard, tu fais un flush, puis tu te mets à saigner, puis bon, tu le perds. C'est grave, tu sais, c'est vraiment grave, c'est pas un truc. Bon, le corps, souvent, on nous explique, ah, le corps l'a rejeté parce qu'il savait qu'est-ce qu'il faisait, ils ont tout à fait raison. Mais quand même, c'est un deuil, c'est un deuil. Pour une femme, là, c'est quelque chose de tough. Là. Ça, il faut prendre le temps de le raconter comme il faut, là, il me semble, là, par respect pour ma blonde, puis par respect pour les événements, puis aussi parce que ça m'a touché moi aussi. Je suis le mari, je suis le gars, mais bon, quand même, de voir ta conjointe souffrir puis déprimer, c'est pas très comique. Là. Voilà.
Je reviens sur ce que Michel disait tantôt à propos des lecteurs qui se présentent devant lui en disant « ça m'a touché, je me suis reconnu », mais qui ne lui parle pas ni de la qualité de son dessin, ni de comment il raconte. Qui sait, peut-être que l'ouvrage « Paul, entretien et commentaires » va favoriser ça, s'approprier un peu une lecture plus critique de la bande dessinée. Là. De la même manière qu'en sortant du cinéma, on va entendre autour de nous les spectateurs qui sortent en commentant le film, en parlant du montage, de la qualité de la photographie, du jeu des acteurs. Ils ont un vocabulaire de base pour critiquer puis commenter un film. Ben, pour la bande dessinée, c'est peut-être pas aussi développé, mais bon, ben justement, peut-être que notre ouvrage commun va favoriser ça.
Tout à fait. Puis le lecteur pourrait peut-être même aussi développer une espèce de sens de genre, ah, ceci, tiens, c'est un peu long ce truc-là aussi, qu'est-ce qui se passe dans cette BD-là, j'ai déjà vu ça, ou ben non, ici, c'est comme le cadrage est un peu weird, je comprends pas trop ce qui se passe. Tu sais, il y a quand même des choses, il y a quand même des espèces de conventions là, qui, qui fonctionnent, puis d'autres qui fonctionnent moins. Mais tu sais, quand on sort d'un film, la première chose qu'on dit quand même, c'est moi, bon, avant de passer à la photo, tu sais, je dis que ça m'a mis à l'envers, tabarnouche. Tu sais, bon, donc c'est ça aussi, c'est comme le film, il m'a eu, le réalisateur m'a eu, il m'a fait brailler, ben non, il m'a fait réfléchir, ben non, il m'a déprimé, mais ben bon, tant mieux, il s'est passé quelque chose. Puis ça veut dire que le réalisateur a fait une bonne job, l'équipe a fait une bonne job, le film marche pour moi, que le film fonctionne. Tu sais, ça, j'ai pas eu envie de sortir, je suis pas endormi, j'ai pas regardé ma montre, je suis resté jusqu'à la fin du générique, puis j'ai fait comme ouf, waouh, tu sais, c'est où? Il s'est passé quelque chose. Pour moi c'est ça, là. Un film réussi, une BD réussie, c'est quelque chose que tu refermes puis tu te dis oh Seigneur, ouais, j'ai fait un beau voyage, moi là c'est ça que je recherche. En lecture, je cherche ça dans les romans, je cherche ça partout. Moi,
mais là-dessus, moi, c'est dans les choix qu'on fait, en fait, ouais. dans la mesure où on parlait tantôt des choix qui sont parfois évidents, qu'on essaie de détourner. Je pense qu'un exemple qui est détaillé d'ailleurs dans Paul Andressin et commentaires, c'est dans Paul dans le Nord, où Paul fait essentiellement sa crise d'adolescence ultime, passage un peu vers l'âge adulte, si on peut dire, à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'émotions qui se passent. Et souvent, quand on est dans le réflexe de montrer l'émotion, on va faire un gros plan. On va nous amener vers le visage, vers le regard, vers les yeux, vers l'expression. Mais il y a une séquence où Paul, justement, adolescent, veut s'isoler, veut donner de l'espace. Et plutôt que de nous amener à proximité, comme la convention l'aurait suggéré, au contraire, tu lui donnes la place, tu nous en éloignes et tu le laisses évoluer seul au loin, dans le fond, dans son émotion. Et ça a un effet qui est complètement différent que si on avait été justement vraiment proche de lui, au bout du compte.
Tout à fait. Ça dépend toujours ce qui se passe, puis qu'est-ce que j'ai envie de parler de. Si je voulais parler d'isolement, tu parles probablement de l'endroit où il s'en retourne dans la forêt, ou quelque chose comme ça, il s'en retourne dans sa cabane, ou je ne sais pas trop. Ça, c'est un moment où il a besoin d'être seul. Donc, on le voit partir dans la forêt. C'est les yeux, c'est, dans le fond, c'est ses parents qui le regardent. Fait que sa mère et son père le regardent partir. Il a besoin de se retirer, tout ça, puis de faire une espèce de wrap-up de ce qui vient de se passer pendant cet été-là. Là, je trouvais que ce n'était pas une émotion intérieure, mais c'est vraiment une émotion d'environnement. Et puis, on n'a pas besoin de le voir en close-up ici. Peut-être plus loin, mais on avait besoin de le voir s'isoler, se retirer. Puis ça prenait de l'espace autour de lui.
Cet exemple-là, Raymond, que tu as retenu, c'est le parfait exemple de ce que j'aimerais que ton auditoire retienne par rapport au livre qu'on a fait, puis à sa partie analyse de planche, analyse de narration. C'est que ce n'est pas dissocié de l'émotion. Tu sais, j'espère avoir réussi à, comme Michel dit, décortiquer des parties de son œuvre, mais en restant toujours relié avec la partie émotive, avec l'expérience émotive du lecteur.
Et peut-être, je vais avec quelques exemples, justement, parce que j'ai envie que l'auditeur ou l'auditrice qui n'ont pas regardé ce livre-là comprenne un peu l'expérience que vous nous offrez, je pense, avec tout ça. Et une autre séquence dont j'ai beaucoup apprécié l'analyse, Paul revient chez lui, je pense que c'est dans Paul en appartement. On voit un trajet qui est complètement anodin au bout du compte vers sa maison de banlieue, ou du moins celle de ses parents. Et Michel Rabaglietti a monté cette séquence-là en parallèle d'extraits de la soirée qu'on découvre en flashback. Et donc, ce qui fait que le passage anodin dans lequel, dans le fond, Paul, il vit plein d'émotions, il est dans le trop-plein de ce moment-là, eh bien, il nous est dévoilé en parallèle et on transforme, dans le fond, l'anodin en une entrée vers sa psyché, vers ses pensées. Et ce montage-là, au bout du compte, rend cette séquence-là d'autant plus efficace aussi. Ah, c'est vraiment, si c'est ça avait été mis en parallèle, là, ça aurait pas
marché. C'est un de nos passages préférés, ce que moi j'aime bien, que Michel aime bien aussi. Dans le fond, c'est juste c'est le jeu de l'ego. Là. On aurait pu le faire. Il embrasse la petite fille, il est comme tout ébloui, il s'en vient chez eux, il rentre, il se couche. Fait que c'est bon, là, j'ai bougé les cases dans ce cas-ci. C'est comme, cette scène-là, cette séquence-là du petit gars qui s'est fait embrasser pour la première fois par une petite fille dans un parc, on va changer les morceaux de côté. Fait que, le baiser, on le voit beaucoup plus loin. Il revient, mais il y a comme l'air weird un peu, tout ça. Il rentre chez eux, ses parents, ils disent, bon, bonne nuit, tatata. Puis là, à la fin, bing, là, on voit qu'est-ce qui s'est passé. Là. On voit qu'il s'est fait embrasser. Là, c'est pour ça qu'il y a un zombie, tu sais. C'est bien simple comme device, comme ils disent, là, mais mais ça marche super. Ça marche super, je trouve. Au lieu de tout, au lieu de le montrer dans l'ordre, tu le montres dans le désordre. Puis là, c'est tout à fait cute. Ça réserve une surprise au lecteur en plus.
J'ai l'impression que vous évoquez deux scènes différentes qui utilisent le même procédé. Parce que dans Paul en appartement, effectivement, Paul, qui est aux études, rentre chez ses parents. Le décor est morose.
Et puis, OK, c'est vrai, on parlait de Paul en appartement.
Il se remémore en quelques cases qui viennent s'insérer de temps à autre à travers son périple en bus, puis à pied, avec les autoroutes, puis tout. Il se remémore la conversation qu'il a eue quelques heures plus tôt.
Avec Lucie, c'est exactement la même chose.
Oui, c'est la même chose. Dans les deux cas, puis là, encore une fois, Raymond, ça montre que l'analyse est indissociable de l'émotion là, dans des cas comme ça, parce que dans les deux cas, c'est la rencontre, l'émoi d'une rencontre avec une fille qui nous plaît ou un gars qui nous plaît. Et puis, quand on est fébrile comme ça, pendant que ça se passe, pendant qu'on parle à cette fille-là ou à ce gars-là, on n'a pas de recul. On est complètement submergé dans un flot d'émotions. On réfléchit pas. Puis après coup, on se demande, j'étudie des conneries, tu sais. Mais c'est tout le temps après coup qu'on se repasse le petit film de cette conversation-là avec beaucoup d'émotions. Et c'est ce que Michel exprime avec un jeu de cases, donc avec le montage. Fait que moi, mon rôle, c'est de pointer du doigt le côté grammaire, syntaxe, le côté montage. Mais on est vraiment dans l'émotion et j'espère que les lecteurs, les lectrices vont prendre connaissance de ces analyses-là avec le sourire aux lèvres en se disant « OK, c'est vrai, moi j'adorais cette scène-là, puis là je comprends un peu les mécanismes. »
C'est vrai, c'est en fait les deux. Dans le livre en question, dans notre livre, ces deux pages-là sont face à face. On a cette scène de Paul au parc, du baiser de l'enfant, des enfants, puis dans Paul à l'appartement, on a la rencontre de Paul et Lucie, même stratégie. J'ai déplacé les. En fait, je retarde le dévoilement des faits. Là. C'est comme. Je les mets complètement. Je les mets, en fait, pendant que Paul s'en vient dans l'autobus, il y a des flashbacks de ce qui vient de se passer. Et puis, ça le fait sourire. Il rit tout seul dans l'autobus. Il est bien de bonne humeur. Fait que, il est dans sa tête. Il est comme dans une espèce de privilège mental. Personne ne sait ce qui s'est passé, sauf lui. Puis c'est une rencontre importante là, avec Lucie, évidemment, qui va être la femme de sa vie.
Et à travers ça, on parle de stratégie, évidemment, des choix de cadrage, de mise en page, etc., qui peuvent servir le drame autant que servir l'humour ou juste l'émotion et le récit. Oui. Et des fois, en fait, c'est aussi le poétique qu'on va chercher. Et encore là, c'est, je pense, le plus bel exemple. Il y en a beaucoup de poésies dans Paul qui sont très riches. Et je pense, entre autres, dans Paul à Québec, toute l'illustration de la morphine, je veux dire, c'est comme quelle façon, de quelle manière on est capable de montrer l'effet que ça a. Et j'imagine qu'à un moment donné, comme auteur, on finit par trouver justement le procédé, la façon dont on va réussir à exprimer ce qui est en train de se passer de façon complètement poétique et encore là, qui va connecter le lecteur à l'émotion de ce qui est en train de se vivre.
Oui, justement, ce passage-là est un peu complexe parce que bon, il fallait montrer au lecteur que Roland recevait une dose de morphine, mais pas mortelle. Là, c'est là que c'est très difficile en BD de mettre une seringue dans quelqu'un. Puis de, tu sais, faire comme, puis c'est comment que ils sont-ils en train de le tuer, tu sais, il y a quelqu'un qui le pique, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Fait que je voulais montrer qu'est-ce qui se passait dans son corps, puis je cherchais une espèce de façon graphique de rendre ça apaisant, mais pas mortel, tu sais. Si je mettais des têtes de mort à l'intérieur du personnage, ça aurait été la mort, mais j'ai décidé de mettre des fleurs de lotus, là. Ça donne une espèce d'effet un peu, je sais pas, un peu drogué, indien, je ne sais pas trop ce que ça donne, mais ça donne une espèce de jardin donc qui fleurit à l'intérieur de Roland, puis ça a l'air apaisant, puis ça n'a pas l'air mortel. Mais c'est genre de truc, oui, il faut trouver des façons des fois. Là. On est en noir et blanc, il n'y a pas de musique, quoi faire, tu sais, pour indiquer au lecteur qu'on n'est pas en train de tuer le personnage.
Moi, personnellement, en tant que lecteur, quand la bande dessinée va là, comme dans cette scène-là, c'est-à-dire dans le symbolisme, elle se distancie d'une certaine représentation de la réalité, par exemple, comme au cinéma. Si on pense au début du cinéma, c'était pas obligé de s'en aller là. Méliès, il mettait beaucoup de poésie et de symbolisme dans ses films. Mais finalement, le cinéma a fini par, de façon vraiment, par une écrasante majorité de films, là, et s'est collé à la réalité le plus réaliste possible. Puis au début, si on regarde les vieux films des années 50, c'est théâtral, ça le devient de moins en moins, avec de plus en plus de gros plans, tout ça. Tandis que là, quand je vois une bande dessinée, que ce soit Craig Thompson ou même Calvin et Hobbes, peu importe, là, puis qu'il y a ces espèces de pas de dérape, mais de ça glisse vers le symbolisme.
Ouais.
On décroche la réalité. Et pourtant, il n'y a pas de rupture de ton. C'est le même dessinateur qui trace les mêmes traits. Alors, pour le lecteur, il n'y a pas de cassure. Mais il y a comme, je repense entre autres à l'envolée en mobylette de Paul après sa soirée où est-ce qu'il se bécote dans Paul dans le Nord. Là. On parle beaucoup de filles puis des amourettes de Paul aujourd'hui. Mais c'est ça, il passe une belle soirée avec une adolescente. Et puis, il s'en va après ça, il retourne chez lui en mobylette, puis sa mobylette plane dans les airs. Ça fonctionne parfaitement. Et puis, c'est un procédé, je trouve, qui est propre à la bande dessinée.
En fait, tu permets ça, puis même dans un contexte où Paul, et aussi dans le choix de l'autofiction, dans le fond, il reste avec un narrateur qui est le personnage central, dans le fond. C'est son expérience, son regard, sa perspective, je pense, et vous le relatez aussi dans... pas d'entretien et commentaire, mais il y a une séquence, un moment pratiquement sur les plus de 1400 planches de Paul où on a passé la narration. C'est la séquence d'Annie qui est seule devant son miroir dans Paul ou un travail d'été, où c'est à peu près le seul moment où on sort un peu du point de vue de Paul pour aller vers le point de vue de quelqu'un d'autre.
Oui, ok, c'est dans Paul au parc. Dans Paul au parc, hein, ça, c'est Hélène qui se regarde dans le miroir, qui se dit qu'il va aller frencher Paul, c'est tout ça, là, oui.
Oh, ouais, c'est ça.
Non, ben ça, c'est vrai, c'est plutôt rare que je m'en vais chez le voisin puis que je lui donne vraiment une scène seule avec de la viande puis à part, puis Paul n'est pas là. C'est très rare que quelqu'un parle, mais puis que Paul n'est pas là pour l'entendre. Ça, c'est une des scènes exemples. Là, genre que, donc, Hélène est là, puis on voit qu'elle va attaquer. Là, ça, elle s'en va chez Paul. Elle veut son premier baiser de l'été, là, où l'été est en train de finir. Là. C'est le temps de frencher quelqu'un. Là.
C'est dans le chapitre sur la focalisation. Quand j'avais proposé à Michel qu'on s'attarde là-dessus, sur ce sujet-là, il était bien content parce qu'il trouve ça intéressant. Mais tu dis le mot focalisation, puis tout le monde a un peu peur, là, puis le monde recule en se disant « qu'est-ce que c'est ça? » Mais si tu expliques ça par la question « qui raconte? Qui est-ce qui te raconte? » T'sais? Ou alors, si on parle de mise en scène, encore là, on peut utiliser un langage très technique qui fait un peu peur, mais si tu dis au lecteur ou lectrice « écoutez, à chaque case, le bédiste, il vous prend par les épaules puis il vous place à quelque part. Non seulement il aménage l'intérieur de sa case en décidant qu'il va mettre des éléments de décor dans ce coin-là, un personnage là, un autre comme ça, puis que les personnages se déplacent de telle façon puis que finalement, il va mettre les bulles dans le coin-là. Non seulement il aménage cet espace-là, mais il prend une décision à chaque case où est-ce qu'il place le lecteur. Donc, moi, c'est un petit peu la mission que je me fais, c'est de trouver une façon accessible, qui est conviviale, tu sais, d'expliquer ces notions-là. Et avec la série Paul, ben, c'est vraiment parfait. Là.
Ça permet d'attacher ça, puis de même aborder, enfin, on parlait tantôt d'autofiction, mais même d'aborder le genre comme tel, de faire des ponts avec l'évolution de l'autobiographie en BD, avec les choix que Michel Rabagliati te fait dans la mise en place de ça. Et encore là, qui nous ramène aussi à la BD, parce que je pense que tu y fais référence à Manet, entre autres, à J.D. Salinger, qui apparaît dans les albums et qui a aussi eu une réelle influence sur ta façon de faire de l'autofiction, de placer la narration, etc.
Oh, si tu me demandes de parler de lui, oui, c'est sûr que c'est un livre bien, bien, bien important. Je l'ai devant moi ici. Là. C'est un livre qui est très important pour moi. Mais c'est une révélation au niveau du... la lecture, tu sais, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a parlé comme ça dans les romans. Je veux dire, j'avais un sentiment de distance par rapport à l'écrivain. Je le sentais derrière les lignes. Je le sentais en arrière. J'avais l'impression qu'il n'était pas proche de moi. Tandis que Salinger, dans L'Attrape-cœur, ce gars-là est en train de me parler directement. Là, tu sais, c'est quasiment épeurant. Je me suis senti très, très proche de lui. Puis j'en parle souvent. C'est comme si c'est ça qui m'a donné un peu envie de raconter à cette façon, au jeu. Là, parce que je dis, moi, c'est le roman qui m'a le plus touché et qui m'a le plus rapproché du personnage central. On est au plus proche là, de Holden Caulfield. On est vraiment avec lui. On l'accompagne dans son voyage à New York. On est assis à côté de lui. Puis c'est à cause de cette écriture-là, puis de la façon que Salinger a fabriqué cette histoire-là. Puis La façon qu'il parle aussi, c'est comme il a pas de filtre, il est écœuré de l'école, il nous le dit, il nous raconte ça comme s'il était vraiment, comme si on était des potes, là, des amis. J'ai pris un peu ce ton-là est dans Paul, ça c'est sûr, c'est le ton de la confidence là, qui est là.
Oui, puis ça nous ramène un peu à ce qu'on disait, puis à l'observation que Michel Giguère avait faite au départ dans les rencontres, dans les dédicaces, que dans le fond, au bout du compte, ça montre bien que ce choix-là, puis les moyens que tu as utilisés pour l'avérer dans tes albums, ben, a fait mouche parce que les gens arrivent comme si tu avais été, dans le fond, comme si tu t'étais confié à eux, comme s'il y avait eu cette relation avec tes livres qu'eux ont eu avec que toi tu as eu avec Salinger, puis ce personnage-là, au bout du compte.
Exactement. Je pense que c'est ça qui arrive. C'est comme... Mais moi, je ne le force pas, ça. C'est le pari que j'ai pris. Je me dis, bon, moi, je vais écrire comme ça. Je me sens honnête comme ça. Hein. J'en parle... je vous dis souvent ce mot-là, honnêteté, là, c'est... parce que c'est dans mon travail. Moi, je ne suis pas un bon bullshitter, comme on dit. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui raconte des... J'aime mieux aller avec la vérité. Pour moi, la vérité, c'est ce qu'il y a de plus solide. L'honnêteté, c'est ce que ça me procure un espèce de sentiment de sécurité aussi au niveau des histoires que je raconte. Personne ne peut raconter mon histoire à ma place. Je suis seul et je suis unique. Puis, je veux pas dire que c'est unique parce que je suis meilleur qu'un autre, mais c'est comme, je transporte des histoires personnelles et puis personne peut savoir ce qui se passe dans ma tête. J'ai toujours l'impression que je peux faire comprendre au lecteur qu'est-ce que j'ai envie de raconter, puis de peut-être de faire un beau voyage avec mes petites histoires qui sont assez banales, finalement.
Oui, puis en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose qui ressort. C'est comme ça que je fonctionne. Il y a quelque chose qui ressort de Paul entretien et commentaire dans les discussions que vous en avez, puis au bout du compte, comme lecteur, je n'avais jamais pensé à ça, mais que l'expérience, dans le fond, des pages et des planches de Michel Rabagliati est ancrée pas nécessairement dans le souvenir qui est associé à l'événement qui est raconté dans la planche, mais au souvenir de l'événement qui est vécu pendant que tu dessines ta planche. Et ce qui fait que, par exemple, le premier album que tu as fait dans l'atelier, en fait, dans ton atelier, ben, une particularité évoque un souvenir particulier, autant que j'imagine Paul au parc te ramène dans une période de ta vie qui n'était pas nécessairement facile et qui, dans le fond, change un peu, dans le fond, la dynamique que toi, tu entretiens avec tes planches, te ramène à ton lieu, à ton contexte, à ton émotion que tu avais quand tu les as créées, plutôt qu'aux souvenirs que tu racontes dans la BD comme telle, dans le fond.
Ben, il y a un exercice de journal, c'est sûr. Moi, en même temps, ces pages-là me servent à faire de l'ordre dans ma vie. Là. C'est pas compliqué, c'est comme ça me sert de journal. J'ai pas de journal, à vrai dire. J'en ai un, mais depuis pas longtemps. Là. Mais ça me sert à faire un peu de l'ordre puis regarder ce qui s'est passé dans ma vie. Puis vraiment partir l'enregistreuse à reculons pour aller voir c'était quoi être dans les scouts en 70, qu'est-ce qui se passait, comment je me sentais quand j'étais enfant, puis que j'avais 10 ans, puis que j'étais avec mes animateurs scouts, tout ça, c'est un beau voyage pour moi aussi, là, personnellement, à faire, puis j'en fais profiter le lecteur, je me dis, tiens, ça risque peut-être de l'intéresser, voici comment je me sentais quand j'étais petit garçon, puis voici comment ça se passait dans les scouts aussi, tu sais, puis j'en profite pour présenter le Québec de ces années-là, les animateurs, comment ça marchait dans les scouts, les amis qu'on s'y faisait, comment ça fonctionne les scouts, les badges, la promesse, tout ça. Ça, c'est intéressant, on a un peu oublié tout ça, tu sais. Ça, je suis toujours conscient de ça. Même quand Paul déambule, qui s'en va au métro, j'en profite. Là. S'il est à Saint-Léonard, je vais montrer des duplex lettres avec des entrées de garage double. T'sais. S'il s'en revient de l'école, ben, on voit le métropolitain. On voit l'affiche quand on arrive à Saint-Léonard. Et je profite tout le temps. Chaque déplacement, il y a quelque chose. J'essaie de mettre quelque chose pour informer le lecteur. C'est ma narration, moi. C'est ma narration personnelle. Au lieu de me taper, genre, il était en autobus, il s'en allait à Saint-Léonard chez ses parents. J'ai pas besoin de faire ça. En BD, tu économises tout ça, tu fais une image, puis toute cette poutine-là, le lecteur la gobe sans même s'en rendre compte, il voit bien.
Mais même si, par exemple, Michel Giguère te ramène dans l'entrevue sur Paul a un travail d'été, bien, j'imagine que Paul a un travail d'été, pour Michel Rabagliati, c'est aussi le premier travail en atelier, c'est la première fois que tu te retrouvais dans un contexte où tu étais dans ton espace. Et donc, ce qui fait que cet album-là, comme émotion résiduelle, quand... des années après, dans l'exercice, par exemple, de pas d'entretien et commentaire, tu replonges dedans, ben, on replonge aussi avec toi dans l'ambiance de « OK, je commence mon métier, j'ai mon premier atelier, c'est mon premier album en atelier. »
Oui, ça, j'en ai déjà parlé. Moi, je suis capable de dire chaque planche, chaque album que j'ouvre, chaque page que je regarde, je dis « OK, là, j'étais à Rosemont, je me souviens, j'étais dans le sous-sol, là, on est en 2001, cette page-là, je me souviens, je me sentais très bien quand je l'ai faite. » D'autres albums, je regarde les pages, je fais comme « Ah, là, je filais pas, je me souviens, là, j'étais sur Jean Talon, ça allait pas bien avec ma blonde, je me souviens que, bon, ma fille m'inquiétait, ou je sais pas trop, tu sais, c'est comme, c'est relié à des, c'est imprimé, les pages sont comme imprimées dans mon cerveau en même temps, puis je me souviens des, c'est ça, je me souviens des moments de travail reliés à presque chaque planche, tu sais, il y a des livres qui sont heureux, d'autres livres qui sont déprimés, vous avez évidemment Paul à la maison en est un, c'est un livre qui a été difficile à faire, je sais que je filais pas, mais j'ai quand même donné mon 100% quand même, j'ai fait un travail quand même bien fait, bien structuré, tout ça, mais je filais pas, tu sais. L'autre avant non plus, Paul dans le Nord, j'étais pas dans mon assiette, là. C'est des livres boués quasiment, il fallait que je travaille, fait que je m'occupais à faire les... Enfin, je suis capable, moi, de travailler même quand je vais pas bien, je vais pas m'écrouler, j'ai besoin de ma bouteille d'encre, de papier, donnez-moi ça, là. Puis là, ça va me vider la tête pour la journée. Je pense que je suis un peu comme ça. Là.
Ta question est intéressante, Raymond, parce que c'est comme si, pour le lecteur qui lit les albums, les 9 albums de Paul, il peut les lire dans le désordre. Il reste que la façon de Michel d'évoquer son passé puis sa vie, c'est comme une abeille qui butine de fleur en fleur. Elle ne suit pas un certain ordre de gauche à droite. Puis lui, c'est comme la mémoire de tout et chacun qui est un peu anarchique, puis que tel événement va nous faire faire un lien avec une autre époque, mais tout ça n'est pas chronologique. Et là, ça, c'est ce à quoi les lecteurs ont accès avec la série des albums. Mais en lisant le gros Paul, comme on l'appelle, là, Michel, il les entraîne un peu plus loin à travers plus de révélations sur le vrai Michel Rabagliati et la vraie version des faits. Et donc, ça ajoute une couche, ça ajoute qu'est-ce qui se passait dans sa vie pendant qu'il était en train de travailler à la réalisation de tel album, ce que le lectorat ne peut pas savoir. Et il y a cette dimension-là qui s'ajoute dans l'ouvrage qu'on vient de faire ensemble, effectivement.
Et peut-être en terminant, en fait, on parle d'un monstre de 350 quelques pages qui est absolument agréable à lire, d'ailleurs, en fait monter sous forme d'un entretien, je le répète. Mais comment vous avez structuré un peu? Est-ce que, dans le fond, vous étiez déjà arrivé, entendu, sur un scénario de comment on va organiser ça? Ou au contraire, les échanges, les discussions sont faites de façon peut-être plus organique et ensuite, Michel Giguère est reparti avec ça, organiser l'ensemble. Donc, comment la méthode de tout ça s'est structurée, peut-être?
Au début, Michel avait une espèce... un semblant de... Il nous a fait un diagramme qui n'était pas genre entrecroisé entre les analyses et une entrevue longue. Puis c'est pas mal comme ça qu'on s'est en allé. Le livre est structuré en comme une longue entrevue. On a l'impression que c'est une entrevue que... D'ailleurs, je fais une bande dessinée au début comme quoi Michel arrive ici. On a vraiment commencé comme ça. D'ailleurs, Michel est arrivé ici avec son micro. On a commencé à parler, tout ça, puis on a fait un premier échange. Après ça, il y a eu une transcription des textes. Puis moi, je disais, c'est pas mal, mais je me sens comme... Je sens qu'il y a des manques, là. Moi, je sens que j'ai pas exprimé mes idées comme il faut là. J'aime pas ce mot-là que je dis là. Je me sens un peu... Là, j'ai coupé court, puis j'aurais pas dû. Fait que j'ai demandé à Michel qu'on fasse les échanges par écrit, finalement. Fait que il m'a nourri à la petite cuillère, là, 2 questions à la fois. Puis moi, j'ai répondu. Après ça, il m'en a envoyé 2-3. On a fait ça pendant tout l'été, là, 2-3 questions-réponses, 2-3 questions-réponses. Puis moi, je trouve ça a bien fonctionné. Comme ça, j'avais le temps de réfléchir. Tu sais, je suis pas un gars je suis pas très structuré quand je parle en public, là, puis ça s'en va de tous les bords. Je préférais avoir le clavier puis pouvoir réfléchir, aller prendre une gorgée de café, me gratter la tête, puis regarder par la fenêtre, puis revenir à la question, puis être content de mes réponses. Là, je suis content de mes réponses, je suis content des questions, je suis content des réponses. Puis j'aime comment le livre a été structuré puis designé, c'est beau. Puis c'est en couleur, on a plein de place, on a mis plein d'images, on a mis toutes les images qu'on voulait. Puis ça donne un livre vraiment, il est vraiment chouette à consulter, là.
Moi, mon idée première était de faire vraiment d'analyse de planche parce que c'est ça ma table, c'est ça mon terrain de jeu. Et là, les éditeurs d'Apastèque, eux, voulaient pas se lancer économiquement, investir dans un projet comme ça sans ajouter un peu la présence tubéliste, vedette de Michel,
ouais, c'est vrai.
Soit plus présent. Ouais. Et donc là, l'idée d'ajouter des entretiens, moi, je l'ai accepté, évidemment, d'emblée, parce que, dans le fond, ça allait de soi un peu. Mais je leur ai demandé de me laisser un petit peu de temps pour que je propose une façon d'arrimer les deux. Fait que c'était important pour moi qu'il n'y ait pas une première moitié d'entretien. Puis après ça, moi, j'arrive avec mes planches analysées. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Et puis, j'ai essayé vraiment de trouver une façon organique d'arrimer les deux, d'imbriquer les deux, de sorte que ça commence, par exemple, le premier chapitre, c'est comment réussir son entrée. Donc, c'est comment Michel Arbeletti est arrivé dans le milieu, sur le marché de la BD au Québec. Et puis, on ouvre une parenthèse et on parle de comment Arbeletti introduit les histoires de Paul. Un peu plus loin, on va parler de son expérience en typographie. Eh bien, on en profite, on ouvre une autre parenthèse sur l'œuvre, sur Paul, où est-ce que là, on montre plein d'exemples de comment Michel Arbeletti joue avec le lettrage dans la série Paul. Et ainsi de suite, on essaie de le faire tant que faire se peut, là, le plus possible, jusqu'à la fin, quand on arrive à la conclusion. Puis cet arrimage-là, c'était peut-être une bonne idée, mais ça a été vraiment compliqué, là. C'était un gros travail à plusieurs étapes, là. Entre autres, Judith Oliver, comme éditrice, là, qui a travaillé aussi, qui avait un recul que moi, je n'avais pas, pour essayer de respecter cette vision-là, mais en restructurant certaines affaires. Ça a été un boulot de plusieurs mois, là, tout ça.
Et évidemment, tout ça, ce travail-là, on le ressent, je le répète comme lecteur, quand on plonge dans ce gros Paul jaune, superbe, esthétique également, que j'incite les gens à découvrir. Je pense qu'on a donné quelques exemples d'analyse, quelques exemples de sujets qui sont abordés. Et évidemment, ben, le reste et le 350 pages et justement la suite de cette entrevue, de ce dialogue-là dans une belle profondeur. Alors, ben, donc je rappelle, le livre est disponible du côté de la Pastèque. Et ben, merci à Michel Giguère et Michel Arbeletti pour leur présence avec nous cette semaine.
Merci, Raymond.
Alors voilà qui conclut cette avant-dernière émission régulière de la saison 2022-2021 de La vie en BD, cette 11e saison. Toujours un plaisir d'être avec vous. J'en profite pour vous rappeler que l'ensemble des émissions sont disponibles sur lavieenbd.com. J'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur Facebook, que vous pouvez nous suivre également sur Instagram. Alors ben voilà, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine.